L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bonjour à tous. Mercredi dernier, le 6 janvier, l'Église orthodoxe a célébré le baptême du Christ. Cette fête est appelée aussi la théophanie, ce qui signifie en grec la manifestation de Dieu, car pour la première fois, la Sainte Trinité se manifeste aux hommes. Le Fils est baptisé, le Saint-Esprit descend comme une colombe, et le Père fait entendre sa voix. Ainsi, Dieu le Père révèle Jésus comme son Fils bien-aimé qui a toute sa faveur. Par son baptême, notre Seigneur Jésus-Christ a béni les eaux du Jourdain. À travers ses prêtres, il bénit aussi chaque année de nombreuses rivières du monde entier. Depuis quelques années, la Seine est aussi bénite, le mois de janvier, par des offices chrétiens orthodoxes. Cette année, le jour même de la Théophanie, la première bénédiction des eaux de la Seine a été célébrée, rive gauche, à côté de la cathédrale Notre-Dame, par Monseigneur Joseph, le métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Après avoir célébré la divine liturgie dans sa cathédrale des Saints-Archanges, au cœur du quartier latin, Monseigneur Joseph, accompagné par des prêtres et des fidèles de plusieurs paroisses roumaines de Paris, est allé en procession jusqu'au bord de la Seine. Durant l'office, une croix a été jetée et retirée des eaux de la Seine par trois fois en signe de bénédiction trinitaire. J'ai demandé à Monseigneur Joseph de nous parler de la signification spirituelle de cette bénédiction de la Seine.
Premièrement, c'est une tradition très ancienne de l'Église orthodoxe qui remonte bien sûr au baptême du Christ, à la théophanie, donc au baptême du Christ, quand il descend dans les eaux du Jourdain et ainsi il bénit et sanctifie toute la création. Suite à cela, nous faisons une procession le jour même de la théophanie à la rivière ou à une source d'eau pour bénir les eaux et la nature. Donc pour nous, chrétiens orthodoxes ici à Paris, bien sûr nous les Roumains ne sommes pas les seuls à le faire. Il y a aussi l'Église grecque qui le fait chaque année au cours du mois de janvier. Nous le faisons le 6 janvier, le jour même de la Théophanie. Et ainsi nous signifions la bénédiction de la création tout entière par la descente dans les eaux du Jourdain du Fils de Dieu incarné.
Monseigneur Joseph, lors de cette bénédiction de la Seine, il y a eu des bateaux qui ont passé sur l'eau de la Seine, des gens qui jetaient un regard bienveillant sur cette manifestation. Ce n'est pas la première fois quand cette bénédiction des eaux de la Seine a lieu pour la théophanie. Comment vous avez trouvé la réaction des gens, des passants, lors d'une cérémonie qui est quand même extraordinaire pour le centre-ville de Paris?
Je dirais que, bien sûr, voir aujourd'hui une procession chrétienne au cœur de Paris n'est pas un événement de chaque jour, bien sûr, surtout des orthodoxes en procession, parce que d'habitude les orthodoxes ne sortent pas dans les processions puisqu'ils sont peu nombreux et ils n'ont pas beaucoup d'occasion pour le faire. Mais je pense que c'est un contact premièrement avec les gens qui passent dans la rue, puisque ça peut être aussi une confession de foi, une confession qui passe par une tradition ancestrale de notre Église, une tradition très ancienne. Donc je pense que, à part les regards bienveillants, les gens se posent la question, qu'est-ce que ça signifie ? Bon, je ne pense pas qu'on puisse trouver des réponses tout de suite, mais en tout cas, c'est un témoignage, on peut dire tout petit témoignage, de la foi chrétienne orthodoxe et un témoignage qui est fait par une procession publique et qui nous relie à la tradition de nos régions et de nos pays d'origine, mais une tradition, je dirais, qui répond beaucoup aux préoccupations de l'homme d'aujourd'hui en ce qui concerne l'écologie, en ce qui concerne la sanctification de la création, de toute la création, y compris les animaux, la nature, que ce soit la terre, les arbres, dont toute la création participe à cette fête, à la rencontre de Dieu lui-même avec la création dans les eaux du Jourdain.
Domnul și toate cele din lăuri.
Dans la cathédrale roumaine de Paris, j'ai rencontré Madame Vasa Conticello, professeure spécialiste du christianisme orthodoxe à l'école pratique des hautes études. Elle était venue pour participer à l'ordination comme diacre de son étudiant Christian Suchu lors de la divine liturgie de la Théophanie. Je lui ai demandé si elle participe pour la première fois à l'office de la bénédiction de la Seine.
Alors effectivement, à Paris et à l'église roumaine, c'est la première fois. Je suis déjà allée à l'église grecque du côté du pont d'Iéna sur la péniche. Et je dois dire, ce jour-là, il faisait très beau. Aujourd'hui, on a vu vraiment la piété des gens qui sont allés jusqu'à la Seine sous la neige. C'était magnifique. J'ai un peu compris les mots du roumain, mais enfin, il faut connaître l'office quand même pour suivre aujourd'hui. C'est un moment très émouvant, vraiment très émouvant au centre de Paris quand on voit la procession, les bannières et la croix qui se dirige vers la Seine. Enfin, j'étais très touchée et je suis vraiment heureuse d'être aujourd'hui dans cette célébration. D'autant plus que je retrouve beaucoup d'amis que je ne vois pas à l'église, puisque moi je vais à l'église grecque, mais il y a beaucoup de Roumains qui viennent au cours, justement. J'ai beaucoup d'étudiants roumains qui sont très brillants. Je suis très fière d'eux et j'étais heureuse de les voir aujourd'hui pour cette fête.
C'est une chose rare quand même de voir cette manifestation publique de la foi et de plus au plein centre de Paris, juste à côté de la cathédrale Notre-Dame. La bénédiction des eaux de la Seine, pour un État laïque comme c'est la France, c'est assez rare. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant qu'orthodoxe de participer à un événement justement qui est une manifestation de la foi orthodoxe dans l'espace public ?
Je dois dire que je me sens très à l'aise en tant qu'orthodoxe en France et à Paris. Justement, on peut célébrer, je pense, sans aucun empêchement, faire ses processions, enfin évidemment avec les accords préalables. Mais les fidèles sont toujours au rendez-vous, les prêtres sont très dynamiques et organisent les choses. Donc voilà, la Seine est bénie comme plein d'autres fleuves, rivières, mers aujourd'hui à travers le monde. C'est très émouvant et je crois qu'on se sent très à l'aise en tant qu'orthodoxe dans ces manifestations à Paris ou partout en France. Peut-être que les Parisiens vont commencer aussi, les autres, enfin ceux qui ne sont pas orthodoxes, vont voir ces choses comme très banales finalement, parce qu'on a tous besoin d'avoir ces références aussi dans une ville où le christianisme a quand même été depuis toujours une religion de référence.
Vasa Conticello, vous enseignez le christianisme orthodoxe à l'école pratique des hautes études, donc à l'Université de Paris, dans un espace laïque de la République. Comment vous sentez-vous en tant que professeur, enseignant de l'orthodoxie, en même temps orthodoxe pratiquante, dans cet espace, disons, du laïcisme républicain qu'est l'Université de Paris?
Je dois dire que je me sens très à l'aise, et si je n'y étais pas, je l'aurais choisi encore une fois. En effet, il est très important, et c'est ce que j'essaye de pratiquer, il est très important de connaître sa foi à travers les textes, à travers une lecture très lucide et je dirais même critique dans un sens positif de ces textes. Je pousse mes étudiants à le faire, je le fais moi-même quotidiennement. Je pense qu'on est tous gagnants-gagnants dans ce genre de travail, c'est-à-dire de connaître, d'approfondir et de progresser dans la connaissance de ces traditions.
Vasa Conticello, vous avez participé aujourd'hui à l'office de la Théophanie dans la cathédrale roumaine de Paris, aussi parce qu'un de vos étudiants, Christian, est devenu diacre aujourd'hui ici.
Je suis venu dans l'église roumaine effectivement pour cette raison. Christian n'est pas le premier de mes étudiants à avoir une place dans l'église. J'ai reconnu deux autres de mes étudiants justement dans le sanctuaire aujourd'hui. C'est très émouvant pour moi. J'espère évidemment que tous ces diacres et prêtres continueront leurs brillants travaux et qu'ils pourront mener de front leurs activités académiques et religieuses. En tout cas, je leur souhaite de le faire. Car ce que j'ai constaté, je dois dire, c'est que, contrairement à l'idée qu'on aurait pu se faire, cette nouvelle génération, je le constate, arrive très bien à concilier les deux dans un esprit d'amour de la science et de la connaissance. Donc ça me fait très plaisir de les voir progresser dans ce sens. Et j'espère que, justement, leurs prières nous aideront aussi, nous autres laïcs, à progresser.
And to Mulladi.
Le père Jean Boboc, de la cathédrale orthodoxe roumaine des Saints-Archanges de Paris, a concélébré avec Mgr Joseph la divine liturgie de la Théophanie. J'ai demandé au père Jean quelle est la signification théologique de la fête du baptême du Christ.
Un point essentiel, c'est qu'avec l'épiphanie, nous sommes en face d'une théophanie. C'est une théophanie trinitaire, c'est-à-dire une manifestation trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, observable et observée par le témoin qu'était le prophète Jean-Baptiste. Le Père parle, le Fils est présent et l'Esprit se manifeste. Nous avons un tropaire magnifique qui explique cela en roumain et qui insiste sur le fait que, notamment, après la parole du Père, l'Esprit vient renforcer cette parole par sa présence visible. Et là, il y a un détail qui malheureusement traîne un peu dans la littérature, c'est qu'on représente toujours, enfin, dans la tradition occidentale en tout cas, on représente souvent l'Esprit-Saint par un volatile, en l'occurrence une colombe. Or, l'Évangile ne dit pas qu'une colombe est descendue du ciel qui s'était ouvert naturellement. Il dit qu'on a vu quelque chose qui s'est manifesté comme une colombe, c'est-à-dire comme un symbole de pureté, celle de l'Esprit-Saint. Donc c'est une des manifestations essentielles de la Trinité en ce jour de l'Épiphanie, où la tradition occidentale voit une fête assez populaire, où les mages ont une importance particulière, où on offre une galette, où l'on tire les rois, ce qui d'ailleurs est un aspect tout à fait positif, parce que ça maintient une pensée en relation avec l'Évangile, mais nous sommes extrêmement ancrés sur la bénédiction des eaux et des eaux vives. Que veux-je dire par là ? Le Christ étant entré dans le Jourdain a béni la nature, la création par les eaux vives, et on peut même dire que à cet instant précis, les eaux ont changé le sens de leur cours, c'est-à-dire qu'elles remontent. Les eaux remontent vers l'origine, et c'est la sanctification des eaux qui baigne l'ensemble de la nature qui sanctifie toute la nature. Là, il y a un symbole extrêmement puissant. Mais il y a aussi une réalité. Derrière un symbole, il y a une réalité. Et la réalité, c'est cette sanctification de la nature à laquelle l'homme est amené. C'est une des missions de l'homme, de ramener la nature à son créateur. On est donc là devant une fête qui est une des fêtes principales, le baptême du Christ. Le Christ n'a aucun péché à se faire pardonner, bien entendu, mais il participe, comme les autres hommes, à une époque où le baptisme avait une certaine influence. D'ailleurs, comme vous le savez, autour de Jean-Baptiste, il y avait des disciples. Donc le Christ accepte l'historicité de sa période, il participe comme ses contemporains à ce geste particulier rituel du baptême, mais ça prend immédiatement une autre dimension. Nous avons adopté dans l'orthodoxie l'immersion totale, comme cela se faisait dans les premiers temps, et comme cela a duré d'ailleurs un certain temps.
Il faut dire aussi et préciser que le mot baptizo en grec veut dire immerger. Donc c'est le geste initial, le geste original que l'Église orthodoxe a préservé jusqu'à aujourd'hui, le baptême par immersion, qui a un sens symbolique très fort, mort par rapport au péché et résurrection avec le Christ.
Tout à fait. Et alors là, nous avons donc un différentiel, si vous voulez, dans l'interprétation du rite d'initiation chrétienne. Vous savez très bien que chez nous, le rite d'initiation chrétienne a trois moments. Le premier, c'est naturellement l'immersion. Le second, c'est la chrismation. Et le troisième, c'est l'Eucharistie. Et il n'est pas pensable pour nous de l'un sans l'autre. Tout cela est une forme, une unité.
Oui, j'aimerais bien faire quelques commentaires sur ce que vous avez déjà dit, quelques précisions. Donc, vous avez rappelé le fait qu'en Occident, le 6 janvier, il y a cette fête qu'on appelle Épiphanie, et qui veut dire le moment où les mages arrivent et adorent le Christ nouveau-né, qui est une fête plus tardive et qui a remplacé la Théophanie, donc le baptême du Christ le 6 janvier, qui a été déplacé le premier dimanche après l'Épiphanie, donc aujourd'hui dans l'Église occidentale, dans l'Église catholique. Et donc, sous le même nom, Épiphanie, Théophanie, se cache une autre fête, finalement. Dans l'Église orthodoxe, on a préféré de fêter à Noël tout ce qui concerne l'enfance du Christ, donc l'arrivée des mages aussi, pour qu'on puisse passer au baptême quand le Christ, déjà adulte, se montre. La Théophanie, c'est le moment où le Christ se manifeste, se montre pour la première fois. Dans certains évangiles, comme l'évangile de Marc, la toute première fois. Dans d'autres, comme dans l'évangile de Luc, la première fois en tant qu'adulte. Donc Théophanie, c'est aussi une manifestation du Christ homme parfait à 30 ans, le sauveur du monde, et bien sûr la première manifestation de la Sainte Trinité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de dire que le Saint-Esprit en tant que colombe, c'est un vocable iconographique qu'on retrouve aussi dans l'iconographie orthodoxe, mais là il est toujours entouré par un nimbe, donc c'est pas un simple colombe qui se promène dans le ciel, et qu'il y a eu des abus aussi dans l'iconographie orthodoxe, et je pense au concile de Moscou de 1666 où on a déclaré tout simplement que le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, parce que il y avait cette tendance qui s'est manifestée à l'époque et se manifeste aussi aujourd'hui de représenter le Saint-Esprit en tant que colombe partout, dans toutes les icônes, même dans l'icône de la descente du Saint-Esprit, ce qui était bien sûr un abus. Le Saint-Esprit s'est manifesté en tant que colombe seulement au moment de la théophanie, du baptême du Christ.
Et à cet égard, je partage l'opinion de Cérus Ancien, qui ont, je crois, bien fait d'attirer l'attention sur le fait qu'il y avait là un risque. Vous savez, il y a quand même quelque chose d'un petit peu ridicule, parfois, à s'apercevoir que la Trinité est représentée systématiquement par un vieillard barbu, un volatile quelconque et un beau jeune homme. On tombe dans le ridicule.
On peut penser que si dans l'Occident de l'Europe, il y a eu un certain moment une sorte d'apostasie, ça a été aussi dû à ces images infantiles et qui n'ont rien à faire avec la vraie théologie chrétienne.
Tout à fait.
Maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse parler davantage sur ces traditions orthodoxes qu'on peut trouver dans tous les pays orthodoxes. Le fait d'aller le jour de la théophanie et bénir les eaux des rivières ou même de la mer. Et c'est une tradition qui n'a pas pu être empêchée même par l'arrivée des régimes communistes au pouvoir dans les pays de tradition orthodoxe et qui aujourd'hui est célébrée bien sûr avec beaucoup de faste. Il y a même des jeunes hommes courageux qui vont se jeter à l'eau pour ramener la croix jetée par l'évêque ou par le prêtre. Et justement à Paris, on a l'occasion d'assister chaque année, en particulier cette année, le 6 janvier, à la bénédiction des eaux de la Seine par Monseigneur Joseph, le métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Ce qui est assez rare à Paris d'avoir une manifestation publique de la foi.
C'est une fort belle manifestation et c'est une très bonne initiative. En fait, je voulais revenir sur l'eau. Vous avez dit tout à fait justement que c'était une tradition dans les pays orthodoxes de bénir les eaux. Mais j'ajouterais les eaux courantes, les eaux vives. On ne bénit pas l'eau d'un lac ou d'une mare, n'est-ce pas ? On bénit l'eau d'une rivière, d'un torrent, de la mer, une eau vive. Cet adjectif-là est très important.
Une source, bien sûr.
Une source, ce qui est une eau vive. La bénédiction des eaux entraîne des manifestations de processions, etc., qui sont extrêmement liées à la vie des peuples orthodoxes. Et c'est une joie de pouvoir manifester cette fête, le jour de l'Épiphanie, en faisant une procession vers la Seine. Alors nous sommes, nous, la seule cathédrale de la rive gauche orthodoxe, et nous avons donc fait ceci juste en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc nous étions à mi-chemin entre les deux cathédrales. Et certainement que les badauds ont été un peu surpris de voir les étendards, les icônes, les prêtres dans leurs ornements, etc. Les prières récitées au bord de la Seine, puis le lancement de la croix dans les eaux et sa récupération. Mais tout cela est une joie intense parce que non seulement nous perpétuons une tradition, mais aussi nous manifestons dans le monde laïque, dans le monde profane, notre présence, non pas ostentatoire parce que ce n'est pas au quotidien, une fois par an, nous sommes dehors dans l'affirmation de nos convictions. Et de le faire juste vis-à-vis de Notre-Dame nous semblait extrêmement symbolique.
Vous êtes roumain, mais vous êtes aussi français. Vous connaissez la société française, cet état laïque où la religion a été de plus en plus cantonnée à l'espace privé. Et justement, on voit très rarement des manifestations publiques de la foi chrétienne. Pourquoi est-il nécessaire d'aller manifester sa foi publiquement et bénir les eaux ?
Je prendrai la question d'une autre façon. Voyez-vous, je me suis souvent posé la question de la nécessité ou pas du port de la soutane. Voyez-vous, c'est une question qui a dû être vraiment très discutée chez nos frères catholiques, qui ont finalement pris une solution, je dirais, de grisaille. Ils ne se manifestent pas par leur apparence en tant que pasteurs chrétiens, etc. Je crains que ce soit une erreur, parce que, en fait, je vois le regard des autres qui sont portés sur moi dans la rue. Alors, il y a de deux choses l'une. Soit certains pensent, oh, tiens, voilà un retardataire, ou d'autres pensent au contraire, tiens, qu'est-ce qui fait que cet homme se manifeste de cette façon ? Mais je crois que je n'ai jamais croisé un regard indifférent. Et comme je n'ai jamais eu une grimace ou un geste inconvenant, je pense que c'est plutôt positif. d'être en soutane et de manifester que l'on est un religieux. Alors, de manifester par contre par une procession imposante dans un monde laïque, notre foi, dans le contexte social de la France actuellement, je crois que c'est très bienvenu. Je pense qu'il faut s'affirmer tel que nous sommes, non pas avec arrogance, non pas avec orgueil, mais avec foi et désir de nous maintenir dans cette foi et si possible d'amener les autres non seulement à nous comprendre, mais à venir à nous. Et si on ne sort pas de nos églises, eh bien, nous n'irons pas vers eux. Alors donc, les choses sont très simples. Pour moi, les choses sont simples. Il faut sortir. Alors, je ne dis pas qu'il faut sortir tous les jours, mais de temps en temps, il faut se manifester tel que nous sommes.
Père Jean Bobok, vous êtes prêtre, mais vous êtes aussi médecin. Et le monde passe par ce qu'on appelle une crise écologique aujourd'hui. On peut remarquer justement le jour de la théophanie que l'Église orthodoxe est particulièrement concernée par la bénédiction des eaux, qui veut dire aussi la bénédiction de la création. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de ce point de vue écologique, disons ?
Certains journaux ont parlé de notre patriarche de Constantinople comme étant le patriarche vert, c'est-à-dire le patriarche de l'écologie. Je pense que d'ailleurs c'est tout à fait exact, mais enfin, il n'est pas le premier. Je pense que toujours l'orthodoxie a été extrêmement proche de l'écologie qui ne portait pas ce nom-là, puisqu'elle était proche de la nature. Toutes les manifestations de l'homme orthodoxe, que ce soit son lever, son coucher, son repas, son travail, quoi qu'il fasse, commence par une prière. Et s'il ne la fait pas, du moins il se signe, il fait un signe de croix. Et s'il oublie de faire un signe de croix, il oublie d'être orthodoxe. Et tout cela est peut-être tragique, mais la vie quotidienne est baignée par la religion et par la foi. Et donc l'écologie fait partie intégrante de la foi. Je le disais tout à l'heure, une des vocations de l'homme est non seulement de faire son salut, mais de faire le salut du cosmos. Et donc, nous sommes dans un monde que nous avons un peu sali, dont nous tirons les énergies d'une façon aveugle. Et de célébrer la sanctification de la nature par la sanctification des eaux, c'est un rappel pour toute l'humanité du devoir de sanctification du monde. Et ça, c'est le devoir de l'homme. Pas seulement de faire notre salut, son salut personnel. Que me fait mon salut personnel si j'oublie le salut de ma femme, de mes enfants, de ma famille, de ma patrie ? C'est un salut commun. Mais notre salut commun va aussi dans le salut du monde. Et la nature gémit en attendant la rédemption, n'est-ce pas ? Donc c'est extrêmement important, ce rituel et ces cérémonies de sanctification des eaux sont d'une importance capitale pour mieux saisir à quel point les eaux sanctifiées sanctifient la nature sanctifiée va vers sa rédemption.
S'il y a des problèmes écologiques aujourd'hui dans le monde, c'est aussi parce qu'on vit dans une société de consommation et donc la consommation devient une priorité pour la vie des hommes. Et à cette consommation, le christianisme n'a pas cessé d'opposer pendant deux millénaires l'ascèse. C'est une notion et un mot qui manque aujourd'hui dans la société contemporaine. Et on peut se rappeler aussi que le Christ, après son baptême, il est allé justement jeûner pendant 40 jours dans le désert de Judée. Donc, il y a aussi cette dimension, je pense, dans la fête de la théophanie, n'est-ce pas ?
Oui, vous mettez là le doigt sur un point particulièrement important, c'est cette, non pas opposition, mais ambivalence entre l'épiphanie elle-même et, effectivement, le retrait dans le désert du Christ, qui va donc souffrir les tentations humaines. Évidemment, il s'agit d'un jeûne. Ce problème du jeûne qui, aujourd'hui, est, je vois en Occident, quand même assez abandonné, reste pour nous quelque chose de majeur, parce qu'il n'y a pas de prière possible, de prière avancée, de prière pure, sans une préparation et sans un relatif affaiblissement du corps. Et c'est surtout l'idée, je dirais, de retenue, de restriction, qui va contre cette autre idée, qui est celle de la consommation tous azimuts, sans aucune limite, et qui est effarante de nos jours, n'est-ce pas ? Alors, la prière se fait dans le jeûne, et le jeûne qui consiste à faire ce dégraissement du corps et de l'âme, est extrêmement profitable à cette prière. Vous savez que si on faisait un compte exact des jours de jeûne par rapport aux jours où nous n'avons pas de jeûne, je crois qu'on arriverait pratiquement à une balance. Nous avons un jeûne extrêmement long et profitable avant Pâques. Nous avons aussi un jeûne à peu près similaire avant Noël. Nous avons des jeûnes pour les fêtes de Pierre et Paul. Nous avons un jeûne aussi pour la Dormition. Nous avons de nombreux jeûnes qui viennent scander l'année liturgique et nous vivons donc dans des périodes de jeûne alternées. Alors ces jeûnes ne sont pas toujours des jeûnes noirs, comme nous disons, c'est-à-dire des jeûnes totaux, mais ce sont des jeûnes qui, pour l'homme qui suit cette règle, le met dans une situation de prière permanente.
Oui. maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Par le Saint-Esprit, tout homme vit par la pureté de ses lèvres. Elle est illuminée par le mystère sacré de l'unité trinitaire.
Le 3 janvier, nous avons fêté Sainte Geneviève, la patronne spirituelle de la ville de Paris. Mais sa fête continue à l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui se trouve à côté du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris, où sont abrités le tombeau en pierre et une partie des reliques de la Sainte. Trois paroisses orthodoxes de Paris ont choisi Sainte Geneviève pour être leur patronne. La paroisse francophone russe Notre-Dame-Joie des Affligés et Sainte Geneviève, la paroisse roumaine Sainte-Parasève-Sainte Geneviève, et la paroisse francophone Sainte-Geneviève-Saint-Martin. Des prêtres et des fidèles de toutes ces trois paroisses se trouvent maintenant dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, où, en présence des membres de la paroisse catholique de cette église, un office orthodoxe va commencer à l'heure où cette émission va toucher à sa fin. Ainsi, comme chaque année, la Sainte Patronne de Paris rassemble autour de son tombeau des chrétiens catholiques orthodoxes pour prier ensemble devant ses reliques. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission réalisée et présentée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère Simonos Petra au Mont Athos et du monastère Saint-Antoine le Grand dans le Vercors, les chorales Saint-Jean Damasène de Paris et Stavropoléos de Bucarest. Cette émission a été produite avec l'aide de la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Vous pouvez réécouter l'émission sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.